Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci beaucoup encore d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis, on vous attend sur nos réseaux sociaux pour lire vos réactions. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP, et Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Pauline.
Bonjour Pauline.
Alors aujourd'hui, nous recevons Simon Echène, associé et fondateur de Scalen Partners. Bonjour Simon.
Bonjour Pauline.
Alors Simon, vous êtes diplômé d'une école de management à Nantes. Vous avez aussi un master en finance et investissement. Alors vous, vous êtes passé du statut d'étudiant au statut de professionnel très rapidement, notamment au sein de Rothschild & Co. Un mot peut-être sur cette expérience au cours de votre carrière qui vous a marqué, il me semble.
Oui, effectivement, vous l'avez bien résumé, c'est un passage d'étudiant à professionnel qui est vraiment en accéléré. C'était une très bonne période parce qu'on a beaucoup appris, je dis on parce que c'est là que j'ai rencontré mon associé chez Rothschild quand on est rentré en 2013. Et c'était des horaires très intenses, donc un apprentissage très rapide, des très bons souvenirs, mais aussi une remise en question où on a l'occasion, après trois années, d'être vraiment dans la difficulté permanente, de réfléchir un petit peu plus largement à ce qu'on a envie de faire de sa vie et de sa carrière professionnelle. Mais effectivement, excellent souvenir. Et peut-être que le meilleur souvenir, c'est le moment où on s'est dit, mon associé et moi, à 4h du matin, un beau soir de semaine, peut-être qu'on va créer une autre aventure un peu différente en conservant les bases et tout l'apprentissage technique qu'on avait reçu dans cette belle maison. Et c'est ce qu'on a fait en créant Scalen en 2017.
Alors justement, voilà, on est en 2017, vous avez à peine 27 ans et vous cofondez la banque d'affaires Scalen Partners. Vous nous l'avez dit en quelques mots, mais est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé, cette aventure, aussi pourquoi vous avez décidé de vous lancer en fait?
Oui, bien sûr. C'était déjà, on était des provinciaux, Samuel et moi, donc c'est pas anodin. Lui vient de Nice et moi, je suis un Luxembourgeois qui a grandi dans les Vosges profondes. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le nom Rothschild est devenu très connu, puis notamment avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'était sur tous les médias. Et donc, on avait pas mal de dirigeants autour de nous quand on rentrait dans nos régions respectives qui nous disaient, bah tiens, toi qui travailles chez Rothschild, peut-être que tu peux m'aider sur telle ou telle problématique. Donc, je pense que c'était un peu une triptyque, hein, la création de Scalen. La base évidente, c'est qu'il y avait des velléités entrepreneuriales de la part de mon associé et de moi-même, ça c'est sûr. L'autre point, c'était celui que je décris, c'était qu'on se disait, bah tiens, il y a peut-être des gens qu'on peut aider, en fait, nous-mêmes, évidemment, des beaucoup plus petits clients, mais on a peut-être du travail dès demain si on crée notre structure. Et puis le troisième point, c'était un constat de marché où on s'était rendu compte que en fait, plus les tailles d'entreprises diminuaient, plus les banques d'affaires, pour chacune des catégories, avaient plutôt une stratégie volume que valeur. Nous, on était dans l'équipe large cap chez Rothschild, donc c'est des très grosses opérations, plutôt pour les multinationales, les boîtes du CAC 40. Moi, j'ai fait beaucoup de groupes cotés. On est très précis, en fait, sur les opérations. C'est très concentré, un très fort taux de succès. C'est un petit peu moins le cas, par définition, quand on descend dans le mid-cap ou le small-cap aussi, parce que il y a des petites surprises parfois quand on travaille pour un client, puis on découvre que finalement, ça va être compliqué de sortir l'opération. Il peut y avoir beaucoup plus d'aléas, en fait, hein, par définition. Donc, c'est pas un gros mot de dire qu'il y a des stratégies de volume sur les plus petits niveaux, mais nous, en tout cas, le play était un peu différent. On s'est dit, bah, tiens, ce qu'on a fait, ce qu'on nous a appris à faire pour les très grands, on pourrait le faire aussi pour les plus petites boîtes. Et c'est l'essence même de Scalen. C'est une stratégie de valeur, 10 opérations par an. Et on fait en sorte, en revanche, qu'elles sortent toutes.
Alors, si je comprends bien, vous êtes une banque d'affaires dirigée par des entrepreneurs. Vous êtes 4 associés, 4 domaines d'expertise principaux. Depuis 2017, hein, vous avez conseillé près de 2 milliards d'euros de valeur d'entreprise, il me semble.
Oui.
Des chiffres plutôt positifs.
Oui, c'est pas mal. Dit comme ça paraît énorme. En fait, nous, notre cœur d'activité, il est plutôt sur des valeurs d'entreprise entre 50 millions et 200-300 millions, okay, à peu près. Donc, je pense qu'on est vraiment en plein dans la PME. Hein. On n'est pas sur ETI Radio, on est bien sur PME Radio. C'est pas pour rien. Okay. Donc, oui, on a ces quatre verticales. On est généraliste, en fait. Hein. La plupart des banques d'affaires françaises, en tout cas, sont généralistes. C'est très anglo-saxon, l'approche par verticale. Il y a quand même, effectivement, des secteurs qui se dessinent, en fait, assez naturellement avec le temps dans notre track record. On se rend compte qu'on a fait plus d'opérations dans ce secteur-là que dans un autre. Et puis, le volume en appelle d'autres. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on se démarque pas mal sur le consumer, donc les marques hein, qu'on connaît tous. On est intervenu sur... My Variation, les brosses à dents que vous connaissez peut-être, les secrets de Loli, les produits pour cheveux, lunettes pour tous dans l'optique. Donc, on a eu pas mal d'opérations sur le consumer. C'est intéressant pour nous parce qu'il y a une bonne visibilité, en fait. Les gens tout de suite raccrochent quand c'est des noms comme ça. Mmh. Et sinon, on est sur des métiers aussi un peu plus profonds. On a le service B2B, l'industrie et la santé.
D'accord. Guillaume, vous avez des questions pour notre invité?
Simon, vous accompagnez les dirigeants dans des phases critiques, des sessions, des levées de fonds, des build-up. Quelles sont les erreurs de gouvernance les plus fréquentes que vous avez constatées?
Écoutez, d'un point de vue gouvernance, en fait, le gros sujet, nous, dans les opérations qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les one-man show. Donc, en fait, le gros problème de gouvernance qu'on a, nous, sur certains de nos clients, c'est quand, en fait, la gouvernance, elle est centrée sur une seule et même personne, qu'elle n'est pas redistribuée, qu'il n'y a pas de comex, qu'il n'y a pas de board, qu'il n'y a pas de top management déjà intéressé au capital. Ça, c'est vraiment très problématique, voire... quasiment deal breaker sur nos opérations. Donc, on s'assure toujours soit qu'il y ait une bonne répartition de la gouvernance, qui me paraît très sain aussi par ailleurs, hein, pas juste dans le contexte d'une opération, mais au global pour faire tourner une affaire. Et si ce n'est pas le cas, on s'arrange toujours pour que dans le cadre de l'opération, ça soit justement le bon moment pour intéresser des managers clés dans ce qu'on appelle un management package. Les fonds d'investissement en sont friands aussi, puisque eux, ils veulent qu'il y ait une répartition du risque sur plusieurs personnes clés et qui vont être tout le soutien du business plan. Donc, je dirais que ce que je vois le plus fréquemment, oui, c'est ça. Et c'est un point absolument crucial dans toute opération.
Dans la continuité de la première question, quelle est votre approche pour gérer les tensions psychologiques entre associés ou entre actionnaires familiaux dans les transactions un peu complexes?
Ah, ça, c'est vraiment compliqué. Ouais, hein. Ça, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est toute l'essence, en fait, de Scalen. C'est une question qui nous concerne, nous, directement, parce que si je réponds à l'inverse, on peut justement pas se dire j'ai un schéma qui fonctionne, j'ai une problématique quelle qu'elle soit, j'ai toujours le même schéma de pensée et puis je vais résoudre le problème. Nous, on s'emploie justement à repartir d'une feuille blanche et à essayer de réfléchir en fonction des situations qu'on a qui sont toutes, évidemment, très particulières. Donc, c'est vraiment, je pense, la question est vraiment bonne parce que c'est l'essence de notre métier, nous, en fait. En fonction de la problématique, d'essayer d'imaginer quel type d'investisseur ou même d'industriel dans le cadre d'une session totale va matcher avec les intérêts de nos clients qui sont souvent pluriels, en fait. C'est assez rare qu'une seule personne qui nous dise juste « moi, je veux maximiser le prix ». D'ailleurs, c'est jamais le cas, en fait. On pourrait penser que c'est ça, mais en fait, c'est jamais le cas. Donc, il y a toujours des problématiques beaucoup plus profondes et puis souvent diverses parce que nous, bien souvent, on arrive dans des situations actionnariales où il y a le fondateur, aussi le management qui est intéressé au capital et parfois un fonds d'investissement ou des business angels qui sont arrivés au départ. Donc, chacun a une vision différente et des intérêts différents dans le cadre du deal et c'est tout notre métier d'essayer de trouver une opération équilibrée et avec le bon partenaire.
Vous affirmez que le secteur reste archaïque technologiquement, oui. Mais que vous explorez l'IA. Quels sont les usages que vous envisagez réellement, screening, due diligence, à partir de l'IA?
Vous les avez bien résumé. C'est surtout ça. Alors, c'est vrai que c'est très archaïque. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque chez Scalen et que tous mes concurrents ont des années d'avance. Mais c'est vrai que le métier de la banque d'affaires, c'est... PowerPoint, Excel et puis une connexion Internet. Hein. Honnêtement, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup de jus de cerveau, comme on dit. La base, évidemment, obligatoire, c'est les compétences techniques. Mais ça, je crois que tout le monde les a. Je connais aucun banquier d'affaires qui fait une faute dans un deal. Ça n'existe pas d'un point de vue technique. En revanche, des gens qui se trompent sur la stratégie ou la méthode, oui, il y en a. Donc, c'est là-dessus, nous, qu'on se concentre. Et pour revenir sur le sujet techno, effectivement... Le grand point, c'est l'IA. Donc, nous, on essaye de regarder comment ça peut nous être bénéfique. Vous avez bien résumé les sujets qui sont au centre du débat. C'est les points de due diligence, les questions qu'on reçoit, ce qu'on appelle, nous aussi, les logs investisseurs. Donc, en fait, essayer de bien déterminer, j'en parlais lors de votre question précédente, qui peut être un bon investisseur sur tel ou tel actif. Là, on peut avoir un coup de main. Mais on voit l'IA... honnêtement, en tout cas à mon niveau, hein, et chez Scalian Partners, c'est partagé par mes associés, d'un très bon œil. Je ne pense pas que ça nous remplacera. Au contraire, je pense que ça va nous ramener aux lettres de noblesse du métier où, en fait, si on revient sur le M&A, alors moi, je n'en faisais pas à cette époque-là, mais si vous revenez 30 ans en arrière, en fait, c'est assez archaïque, même d'un point de vue technologique. Donc, en fait, c'était encore plus de l'entre-soi. C'était le banquier d'affaires, c'était la personne de confiance d'une famille et qui connaissait l'environnement, qui savait bouger stratégiquement, qui donnait les bonnes infos au bon moment, qui prenait les bonnes décisions, en fait. Et plus on va faciliter la partie technique, moins ça va devenir important. Et qu'est-ce qui va rester ? Bah, c'est justement ça, cette vision stratégique, le bon conseil, en fait.
Alors, pour vous interroger, Damien également aujourd'hui.
Ouais, bonjour Simon. Alors, moi, je fais aussi beaucoup de Valo et on se pose beaucoup de questions en ce moment sur l'impact du RSE et de toutes ces nouvelles normes. Donc, comme vous êtes sur les PME, on sait que pour les grands groupes, ils l'ont adopté. Voilà, oui. Il y a les premiers rapports qui sortent, CSRD, etc. Mais quel est l'impact sur la Valo aujourd'hui ? Est-ce que vous le prenez en compte ou pas encore du tout ? Parce que les professionnels ont du mal à se positionner sur le sujet. Donc, quand vous êtes sur du mid-cap ou du PME, je trouve ça intéressant.
Oui, on le voit. C'est quasiment indispensable maintenant, même à notre niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les très grosses transactions. C'est parti, effectivement, du large cap, où c'est devenu indispensable. Et des boîtes cotées, même, notamment. Donc là, après, se pose la question de la sincérité de la démarche. Mais en tout cas, c'est devenu un passage obligatoire sur les très grosses sociétés. Souvent, en fait, ça découle doucement sur le mid-cap, puis sur le small-cap. Nous, sur notre taille de transaction, oui, je dirais que c'est devenu indispensable. C'est-à-dire que ce qu'on voit d'un point de vue un peu technique, c'est que sur le volet bancaire, on va avoir potentiellement des marges sur les... Je ne veux pas être trop technique, hein, vous me dites, mais dans le cadre des deals LBO, en fait, c'est leverage, donc il y a toujours de la dette. Et donc, en fait, les établissements bancaires, eux, nous proposent maintenant des clauses où, sous réserve d'atteinte de critères RSE, on a des marges plus basses. De la même manière, les fonds d'investissement, le fameux management package dont je parlais, donc ça, c'est une rétrocession de la plus-value du fonds d'investissement au manager clé. C'est hyper important dans le cadre d'un dossier. Et ça, il peut y avoir aussi des critères RSE qui permettent d'aller chercher des tranches supplémentaires du management package.
Ah, c'est vachement intéressant.
Et au global aussi, c'est de plus en plus rare dans une opération qu'on n'ait pas un volet audit RSE. Donc, il y a le classique juridique, fiscal, social, financier. Ça, c'est obligatoire. De temps en temps, stratégique. Et maintenant, de plus en plus, RSE aussi qui se rajoute en quatrième volet.
Eh ben super, merci beaucoup. Vous êtes pile poil dans les temps, je suis pas sûre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On a appris beaucoup de choses grâce à vous, Simon Echen. Vous êtes l'associé fondateur de Scalian Partners, on le rappelle. Merci également à vous, Guillaume et Damien. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Mais retrouvez bien sûr tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain à 14h avec plaisir pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.